VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 4 décembre 2020. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Élections présidentielles et législatives au Ghana ce lundi. Le sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Mahama de nouveau face à face. Élections régionales ce dimanche au Cameroun. L'opposition et les séparatistes anglophones appellent au boycott. Les combats se poursuivent dans la région éthiopienne du Tigré, compliquant l'acheminement de l'aide selon les Nations Unies. 65 millions de cas de coronavirus dans le monde alors que plusieurs pays se préparent au déploiement des vaccins. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a obtenu un passeport et envisage un retour en Côte d'Ivoire en décembre. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi son avocate. Maître Habiba Touré a indiqué dans un communiqué que Laurent Gbagbo a reçu ce jour deux passeports, en ordinaire et en diplomatique, et il envisage de rentrer en Côte d'Ivoire au cours du mois de décembre. L'ancien président ivoirien est en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement en première instance par la Cour pénale internationale. Nous y reviendrons en partie magazine. Au Niger, deux agents des eaux et forêts ont été tués, deux soldats portés disparus après une attaque vendredi dans le sud-ouest du pays, la première depuis près d'un an dans cette région. Les assaillants ont ciblé une position des forces armées nigériennes et des eaux et forêts tôt ce matin dans la Tapoa, située à 150 km au sud de Niamey. Cette attaque intervient après une accalmie de 11 mois dans cette zone, après la sanglante attaque djihadiste qui avait coûté la vie à 89 soldats à Chinegodar au début de l'année. Un air de déjà-vu au Ghana. Le pays se prépare à élire son président dans 3 jours, lors d'une élection qui s'annonce particulièrement serrée entre deux adversaires politiques de longue date, le sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Mahama. Jacques Aristide.
En 2012 et en 2016, les deux rivaux s'étaient déjà affrontés, chacun remportant de justesse l'un des deux scrutins dans ce pays. À 76 ans, Nana Akufo-Addo, candidat pour le nouveau parti patriotique, brigue un second mandat face au leader de l'opposition, John Mahama, 62 ans du Congrès national démocratique. 11 autres candidats, dont 3 femmes, sont en lice. Les prétendants devront convaincre les 17 millions d'électeurs ghanéens, dont plus de la moitié à moins de 35 ans, qui vont élire également leurs 275 députés. Le chômage, les infrastructures, l'éducation et la santé en sont les principaux enjeux. Depuis le début des années 2000, ce pays riche en or, cacao et plus récemment pétrole a connu une forte croissance et le taux d'extrême pauvreté a été divisé par 2 en moins de 25 ans. Mais certaines régions, notamment dans le nord, continuent de vivre dans le plus grand dénuement, sans eau potable ou l'électricité. Jusqu'ici, le Ghana a toujours échappé aux violences post-électorales et les transitions politiques se sont largement déroulés dans le calme. Contrairement à plusieurs de ses voisins ouest-africains, la période préélectorale a toutefois été marquée par des accros, les opposants accusant notamment la commission électorale de manque de neutralité.
Au Cameroun, des milliers de grands électeurs désignent dimanche des conseillers régionaux. Un scrutin qualifié d'historique par le régime de Paul Biya, mais boycotté par l'opposition. Le point avec Clermont et Jubourg.
Ce scrutin indirect va mobiliser dimanche quelques 24 000 grands électeurs, des conseillers municipaux et chefs traditionnels pour désigner 900 conseillers régionaux, 90 pour chacune des 10 régions du Cameroun. 14 partis sont en lice, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC au pouvoir, avait largement remporté les municipales de février. Il est aussi le seul parti à présenter des candidats dans les deux régions anglophones. Le régime présente ses premières élections régionales comme historiques. Les conseils régionaux prévus par la Constitution de 1996 ont été remis au goût du jour lors du Grand Dialogue National pour régler la crise anglophone. Le scrutin est boycotté par les deux principaux partis d'opposition, le Social Democratic Front et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, l'opposant emprisonné 9 mois sans jugement l'an dernier et maintenant en résidence surveillée depuis 2 mois et demi.
En République démocratique du Congo, 14 personnes ont été condamnées à mort pour le meurtre de frères jumeaux rappeurs qui ont été brûlés vifs. C'était en fin juillet dans une localité du sud-ouest. C'est ce qu'a déclaré Maître Trésor Labo, un des avocats de la partie civile. Au total, 25 personnes ont été poursuivies dans cette affaire. 9 ont été acquittées faute de preuves. Les combats continuent au Tigré malgré les communiqués de victoire du gouvernement fédéral éthiopien, compliquant les tentatives d'apporter de l'aide à cette région du nord de l'Éthiopie. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi l'ONU. Nathalie Barche.
Nous avons des informations faisant état de combats qui se poursuivent dans plusieurs parties du Tigré. C'est une situation inquiétante et complexe pour nous, a déclaré Saviano Abreu, porte-parole du bureau onusien de coordination de l'aide humanitaire. Les évaluations en matière de sécurité dans la région sont toujours en cours et plusieurs responsables onusiens ont dit ne pas s'attendre à ce que l'aide parvienne au Tigré avant la semaine prochaine. Le gouvernement fédéral nous a accordé l'accès, mais nous devons avoir le même type d'accord avec toutes les parties au conflit afin de nous assurer d'avoir un accès libre et sans condition au Tigré, a indiqué l'un des responsables onusiens. Monsieur Abiy Ahmed a clamé victoire il y a presque une semaine, affirmant que l'opération militaire a été menée à bien et les combats terminés après la prise annoncée de la capitale régionale, mais qu'elle est par les troupes gouvernementales supposée contrôler maintenant la quasi-totalité du Tigré.
Au Mozambique, au moins 25 soldats ont été tués au cours d'une embuscade menée par des combattants djihadistes dans le nord du pays. L'incident a eu lieu mardi, mais on l'a appris aujourd'hui. Les terroristes disposent d'informations précises sur les mouvements de nos soldats, a souligné une source militaire. Un groupe désigné localement sous le nom d'Al-Shabaab a lancé une sanglante insurrection en 2017 dans la province riche en ressources énergétiques de Cabo Delgado, à majorité musulmane. Le groupe a fait allégeance à l'organisation État islamique en 2019. En Tunisie, des centaines de médecins ont manifesté ce vendredi pour protester contre la mort d'un jeune chirurgien dans un accident d'ascenseur défaillant à l'hôpital où il travaillait. Internes et salariés du secteur se sont rassemblés devant la faculté de médecine de Tunis, réclamant le limogeage du ministre de la Santé. Le drame a déclenché un tollé. De nombreux internautes ont dénoncé les dysfonctionnements au sein de l'administration, notamment dans le secteur de la santé, en plein pic de l'épidémie de coronavirus.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de COVID-19 a recommencé à s'accélérer dans le monde alors que de nombreux pays affrontent une deuxième vague de la maladie. Dans le même temps, les projets de vaccination massive se précisent. Le point avec Mohamed Oumf.
Le bilan le plus récent établi par l'université Johns Hopkins fait état de plus de 1,5 million de morts dans le monde pour plus de 65,2 millions de cas recensés. Les États-Unis, plus touchés, enregistrent un peu plus de 276 000 décès, suivis par le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a assuré par la voix de l'Agence britannique du médicament que sa décision rapide d'autoriser le vaccin de Pfizer et BioNTech répondait à toutes les normes de sécurité après des critiques sur la rapidité du processus. En France, plus la vaccination contre le COVID-19 semble à portée de main, moins de Français semblent vouloir se faire vacciner. Seule la moitié des personnes interrogées en novembre a l'intention de le faire, contre 2/3 en juillet. Le gouvernement espagnol a annoncé ce vendredi qu'il espérait vacciner 15 à 20 millions de ses concitoyens sur une population de 47 millions d'ici mai ou juin prochain. Le Kazakhstan va commencer à produire le vaccin russe Sputnik V à partir du 22 décembre et commencer une vaccination de masse début 2021.
L'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, un ancien témoin à charge contre l'ex-président français Nicolas Sarkozy, a été arrêté au Liban à la suite d'une notice émise par Interpol. Takieddine est recherché par les autorités françaises concernant son implication dans une affaire de corruption et de financement de la campagne de M. Sarkozy. En 2016, il a affirmé avoir personnellement remis en 2006 et 2007 5 millions d'euros en liquide provenant de Libye et visant à financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Il s'est ensuite rétracté et s'est enfui au Liban après avoir été condamné en France dans une autre affaire. L'Allemagne, qui assure la présidence de l'Union européenne, affirme que l'UE est prête à conclure un accord commercial avec le Royaume-Uni sur le Brexit, mais pas à n'importe quel prix. Selon la porte-parole de la chancelière Angela Merkel, il y a des lignes rouges, mais il y a malgré tout toujours de la marge pour des compromis. La période de transition post-Brexit s'achève dans 4 semaines, alors que les négociations se poursuivent difficilement. L'Union européenne a condamné ce vendredi la poursuite de ce qu'elle qualifie d'actes unilatéraux et la rhétorique hostile de la part de la Turquie. Toutefois, elle reste divisée sur la manière de sanctionner Ankara lors du sommet européen du 10 décembre. La position de la Turquie, notamment en Libye et au Nagorno-Karabakh, ont été condamnées mardi par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo lors de sa dernière réunion avec ses homologues de l'OTAN. Voilà pour le journal. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nathalie Barche.
À l'issue d'une rencontre avec le conseil café cacao hier à Yamoussoukro, les cacaoculteurs de Côte d'Ivoire ont suspendu leur collaboration autour des programmes de durabilité et de certification avec les chocolatiers et industriels qui s'opposent au paiement du différentiel de revenus décent. Le conseil a expliqué que certains industriels adoptent des stratégies pour contourner le paiement du DRD dans l'optique de le faire échouer selon les producteurs. Le Sénégal et la Belgique ont évalué hier à Dakar leur programme de coopération lancé l'an dernier. Le ministre de l'économie, Amadou Hoth, a estimé que ce programme est fidèle au plan d'action prioritaire ajusté et accéléré pour la relance de l'économie, validé le 29 septembre dernier. Ces activités seront concentrées principalement dans les régions du centre du pays, notamment pour une infrastructure agro-industrielle moderne. Le Mali a retenu le groupe international Finactu pour élaborer la stratégie nationale d'inclusion financière. Ce projet vise à assurer dans les 5 ans l'accès de produits et services financiers à coût abordable à 75% de la population. La stratégie cible les PME, le milieu rural, les femmes et les jeunes. Finactu, basé à Casablanca, souligne qu'il faut passer par les TIC pour parfaire l'inclusion financière, notamment à travers l'accès à Internet et le paiement digital.
Participez à notre magazine interactif « À votre avis » du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Laurent Gbagbo obtient ses documents de voyage. L'ex-président ivoirien en liberté conditionnelle à Bruxelles, après son acquittement en première instance par la CPI, a obtenu son passeport et envisage un retour en Côte d'Ivoire dès ce mois-ci, selon son avocate maître Habiba Touré. Comment cette nouvelle est accueillie à Abidjan? Bagassi Koura a joint sur place notre confrère Alexis Tano.
Ce que nous constatons, c'est que du côté de Laurent Gbagbo, les gens pensent que cela n'a que trop duré et qu'il a une vie à droit, il devait en bénéficier depuis longtemps et que c'est les autorités ivoiriennes qui ont fait des difficultés à lui attribuer ses passeports. Donc, pour le moment, il n'y a aucune déclaration de la part de ses partisans, ni encore moins de ses camarades qui sont responsables du parti du profond peuple ivoirien à Abidjan. Toutefois, il faut remarquer que dans le communiqué qu'a produit son avocate, M. Habiba Touré, l'instruction a été donnée au secrétaire général du Front Populaire Ivoirien, notamment M. Assouagou, côté pro-Gbagbo, d'entrer en contact avec les autorités ivoiriennes afin de favoriser son retour. Donc, nous attendons pour le moment.
Alors, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il rentre au pays?
Oui. Il a annoncé dans le même communiqué que son retour devait avoir lieu dans ce mois, avant la fin de l'année, dans ce mois de décembre. Mais les autorités ivoiriennes n'ont pas encore réagi face à cette éventualité. Nous pensons que c'est après ces négociations que cela pourrait se faire.
Et comment le gouvernement explique tout ce long délai pour remettre à Laurent Gbagbo son passeport?
Alors, quand on fait un tour en arrière, on se rend compte d'après plusieurs explication, notamment l'ambassadeur du Côte d'Ivoire, Belgique, qui avait déclaré en son temps que la délivrance d'un passeport diplomatique ne se fait pas de façon simple. Et puis, en plus, ce n'est pas en Côte d'Ivoire que cela se fait là-bas. Que cela impliquait une démarche assez particulière, voire assez lourde. Et que la délivrance du passeport diplomatique de Laurent Gbagbo n'a jamais été refusée. Ouais. Et le président de la République, dans une interview accordée à un média étranger, l'a dit également que Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui, il fallait des dispositions particulières. Et je crois que c'est toute cette procédure qui a fait que la délivrance a mis un peu de temps.
Est-ce que vous pensez que cela va contribuer à apaiser la tension à Abidjan?
C'est possible. C'est vrai que la situation est électrique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais c'est un grand pas d'ailleurs vers la discussion, vers la réconciliation. Étant donné que la présidente de Laurent Gbagbo, beaucoup l'ont souhaité pour contribuer à la réconciliation. Et si on tient à cela, nous pensons que ça pourrait contribuer à la réconciliation.
C'était le journaliste Alexis Tano, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Mali, c'est demain samedi que les 121 membres du CNT, le Conseil national de transition, se réuniront pour la séance inaugurale de cette institution qui fera office de parlement pendant la période de transition. Le président du CNT sera élu à cette occasion. Que pensent les Maliens de la composition du CNT? Kassim Traoré a posé la question à quelques Bamakois.
Par rapport à la convocation du Conseil national de la transition, moi je suis inquiet mais pas surpris. Les autorités actuelles ont montré leur amateurisme depuis leur arrivée à travers des déclarations qu'elles n'ont jamais respectées, à travers des engagements qu'elles n'ont jamais respectés et voilà qu'elles viennent encore violer un décret. La clé de répartition du Conseil national de transition a été violée. Et malheureusement, ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que des gens ont été nommés sans pour autant qu'ils n'aient déposé aucun dossier.
Ce que moi je te dis là, c'est parce que votre pays là, il descend lendemain. Sincèrement, moi j'ai peur. Moi mais j'étais surpris de voir ça aujourd'hui. Il y a trop de contraste. C'est, les gars là, ils sont perdus, quoi. Ils ne savent plus là où donner la tête. Et je sais que les Moutaras et Kossa, ils vont les attaquer. Hein.
Pour des personnes comme nous tous qui avons fait ce combat depuis des 30 ans et qu'à la fin, on arrive à ce point, je sais pas, je suis peut-être un peu fâché, mais je reste moi-même, mais ça fait mal. Incroyable. Regardez juste les gens qu'ils ont sélectionnés, alors que le CNT, c'est quand même un petit moment. Des expertises, des ressources humaines de qualité qui doivent faire ce boulot rapidement pour faire des bonnes propositions par rapport à la Constitution et à la loi électorale, et puis on va aller aux élections, et voilà, ça passe. Mais là, c'est... Je suis désolé, mon frère, mais c'est dur.
Il y a quelqu'un qui m'a poussé à postuler là. Moi, j'ai fait mon dossier. J'ai appelé rapidement mon casier de caille. Quand j'ai voulu partir à Katina, il y a tout un cérémonial qu'il fallait assumer d'abord. Ce n'est pas des députés pour nous, hein. C'est des gens qu'ils ont recrutés. Finalement, on a l'impression qu'ils ont choisi.
Ces gens-là ne peuvent pas être porteurs de changement. Donc, le fond a été violé, la forme a été violée. Mais malheureusement, ce qu'il faut retenir, c'est que derrière cette histoire-là, il y a un agenda caché de ces militaires-là. La nomination des militaires à des postes de gouverneur, et j'en passe. Mais, Kassim, si le peuple malien ne se ressaisit pas, si le peuple malien ne se réveille pas, ces gens-là arriveront à leur fin et risqueront de faire plonger le pays dans un trou auquel nous allons passer des années avant de s'en sortir.
Moi, je crains que ce décret-là soit contesté pour sa forme, quoi. Même si le fond, ça va passer, mais pour sa forme de présentation, même s'il y a des homonymes, un Chiaka Traoré, un Amadou Koné qui va quitter Gao, il va venir se pointer que c'est lui. Ils n'ont qu'à nous donner la preuve. Bon, c'est pas une décision inférieure qui va aller donner des précisions sur un décret niais comme ça. Un nom tout court ne veut rien dire. Mali, la même a une décision si la flotte. Je n'ai jamais vu. Moi, par exemple, je suis le chef environnement de Kabbalah. C'est pas pour me flatter.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Les Ghanéens se rendent aux urnes lundi pour la présidentielle. Ils doivent départager le président sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Mahama. Mais pour beaucoup d'électeurs, revoir les mêmes têtes peut paraître lassant. Le reportage de Stacy Knott à Accra. Et c'est un récit de Lionel Gaïma.
Le gouvernement du Ghana a annoncé que le lundi 7 décembre sera un jour férié pour aider plus de 17 millions d'électeurs à se rendre aux urnes. 12 candidats sont en course pour la présidentielle, dont 2 sont donnés favoris. Kodjo Asante du Centre de développement démocratique du Ghana estime qu'il y a comme un sentiment de lassitude au sein de la classe moyenne du pays.
Les premières heures sont un bon indicateur pour savoir si les gens finiront par sortir, s'ils voient que les foules se mobilisent et qu'ils entendent ensuite les commentaires selon lesquels il est très facile d'aller voter, ils pourraient éventuellement sortir, même s'ils avaient décidé de ne pas le faire.
Malgré ce défi, Asante dit que leur enquête montre que les Ghanéens sont préoccupés par les problèmes tels que l'amélioration des infrastructures et l'emploi. L'enquête a mis en évidence des réponses positives sur la gestion du Covid-19, l'accès à l'électricité et à l'éducation. Mais le public a été moins impressionné par le bilan d'Akufo-Addo en matière d'inflation, d'inégalité et de la corruption. Mais Kobi Annan du groupe de conseil en sécurité Songhai Advisory affirme que les deux hommes n'ont pas eu de bilan reluisant.
C'est un choix difficile pour beaucoup de gens. Aucun d'entre eux n'a réalisé des résultats fantastiques pendant son mandat. Et je pense que cela se résumera principalement à des sentiments concernant l'éducation, la corruption, la création d'emplois. Je pense que la création d'emplois et l'éducation en particulier affectent plus de gens au quotidien que la corruption.
Sous la présidence de Mahama, le Ghana a connu une crise énergétique, des délestages en série, des scandales de corruption en répétition, surtout au sein de la justice, de même qu'une dévaluation du CEDI, la monnaie nationale. Trois semaines avant les élections, le procureur spécial anticorruption du pays démissionne avec fracas, alléguant une ingérence politique du pouvoir. Ainsi, la corruption redevient le cheval de bataille de Mahama. Akufo-Addo, lui, nie toute corruption dans son administration. Indépendamment du résultat ou du taux de participation, les analystes s'attendent aussi à ce que les élections soient justes et pacifiques, comme les deux précédentes. Mami Gyeke-Jando dirige le département des sciences politiques de l'Université du Ghana.
Les émotions peuvent être fortes, mais sur la base des précédents, de bons précédents, je crois que ces élections seront pacifiques et que les résultats seront considérés comme crédibles et légitimes.
L'Université du Ghana a publié un sondage qui a donné au NPP, au pouvoir, une avance de 11% sur le NDC avec 5% des électeurs indécis. Les sondages peuvent se tromper et une élection n'est jamais gagnée d'avance.
L'un raconte la soif, un autre la tempête, un autre encore le naufrage qui ont anéanti leur rêve d'Europe quelque part entre l'Afrique et les îles Canaries. Malgré les épreuves et l'échec, ces jeunes pêcheurs sénégalais disent qu'ils repartiront à la première occasion. Plus de 500 personnes ont perdu la vie cette année, la plupart en octobre et novembre, sur ce qui est l'autre route maritime de l'Europe avec la Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrations. C'est une estimation basse, mais c'est déjà deux fois plus qu'en 2019. Jacques Aristide.
Mbour, port de pêche sur l'Atlantique et plus largement des côtes sénégalaises et ouest-africaines à destination des Canaries, archipel espagnol et porte d'entrée dans l'Europe. Qu'ils aient nom Djibi Dieng, Khalif Assamb ou Saliou Diouf, ils témoignent d'un mouvement massif de départ. Et les tragédies en mer se multiplient. En octobre dernier, Saliou, un jeune pêcheur de 22 ans et plus de 200 compagnons, avait navigué deux nuits et une journée quand au matin du deuxième jour, un des moteurs a flanché et pris feu. Seulement 51 passagers ont survécu.
Le feu n'était pas trop fort lorsqu'un bidon d'essence a explosé. J'ai laissé mes bagages et je me suis jeté à l'eau. Certains passagers qui ne savaient pas nager se sont agrippés à moi. Nous avons nagé et tout autour des gens se noyaient. C'était terrible. Nous avons continué à nager comme ça un moment. Si Dieu ne décide pas ta mort, alors tu restes en vie.
Plus de 18 000 migrants, des Africains de l'Ouest dans leur grande majorité, poussés par la pauvreté, la violence ou les persécutions, sont arrivés aux Canaries cette année, les deux tiers ces deux derniers mois d'après l'OIM. Le phénomène date de nombreuses années et ne se limite pas au Sénégal. Il a enflé récemment sous l'effet de la crise économique. Mbour, il a été amplifié par le déclin de la pêche artisanale et disent beaucoup par la pandémie de Covid-19. Khalif Assamb, un autre pêcheur de 22 ans.
Nous allons à la pêche et quand nous revenons, ce que nous gagnons couvre à peine ce que nous avons dû dépenser. Il n'y a rien pour nous ici et c'est pourquoi nous préférons tout laisser derrière nous. C'est la seule façon d'aider nos parents, notre famille.
Mais le sort des uns et des autres dépend des éléments, des passeurs et des scrupules de ces derniers. La crise actuelle est sans précédent, dit Moustapha Fall, de l'Association nationale des partenaires migrants qui œuvre pour retenir les Sénégalais.
Nous avons dénombré plus de 480 morts. Vous imaginez les jeunes à fleur de l'âge qui devraient construire leur vie, aider leurs parents vivre. Et du coup, ils ont gaspillé comme ça leur vie, ils ont marchandé comme ça leur vie. C'est ça, c'est pas encourageant. C'est aberrant même, c'est de la suicide même.
Accusé de pousser les jeunes à partir, faute de leur fournir un travail, un avenir, le gouvernement a mobilisé ses services. Papa Madoussar est délégué général de la présidence à l'entrepreneuriat.
Le président de la République nous a demandé d'apporter une mesure urgente. C'est ce qu'on a fait. Depuis 10 jours, les équipes sont sur le terrain, que ce soit ici à Hambourg, à Saint-Louis ou dans le sud, pour essayer d'identifier d'abord le nombre de jeunes qui sont partis, le nombre de rescapés et le nombre de personnes potentiellement candidats au départ. L'État est aussi en train de mettre en place des outils qui vont dissuader les jeunes de partir, notamment en arrêtant les passeurs, car il faut le dire, le mot, ce sont des criminels et il faut les traiter comme tels.
Le gouvernement invoque les centaines de milliards de francs CFA dépensés ces dernières années en différents programmes pour l'emploi et la formation des jeunes et la création d'entreprises. Malgré les innombrables chroniques de mauvaise fortune de maires, beaucoup croient encore que leur avenir est ailleurs et sont résolus à faire ou à refaire le périlleux périple.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma, Michel Joseph, à la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.